Sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komanicki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté, sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écoutait. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue cette fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Rien. Au tout début, il n'y avait rien. C'est pas facile à imaginer, ça. Rien. Y penser, c'est déjà pas rien. Rien, et puis quoi ? Une explosion. Quelques cellules qui s'agglutinent, s'organisent, un souffle, un battement qui devient pulsation, rien, et puis. Depuis toujours, dans toutes les cultures du monde, les hommes et les femmes ont cherché à combler le vide. Ils ont créé pour ça des récits. Ils ont façonné de possibles tout débuts pour apprivoiser ce rien. Récits de création, cosmogonies sur lesquelles sont venus s'enraciner les mythes, terreau de nos imaginaires.
Il n'y avait rien. Au commencement, chez les Grecs, il n'y avait absolument rien. Le grand vide, la grande béance. Et ce rien avait déjà un nom. Il s'appelait Chaos. Il n'y avait rien et pourtant tout était déjà là. Mais tout était tellement entremêlé, entrelacé, mélangé que rien n'existait vraiment. C'était comme un énorme ragoût où l'on aurait mis tout à mijoter et où on n'aurait plus pu distinguer les carottes, des oignons, des tomates, des saucissons. Il n'y avait pas de haut, pas de bas, pas de chaud, pas de froid, pas d'ici, pas de là-bas, pas de maintenant, pas d'autrefois. Tout était tellement mélangé que rien n'existait. Ce grand rien était là depuis toujours. Et il aurait pu durer toujours, si un grain de sable ne s'était pas glissé dedans. Ce grain de sable s'appelait Eros, l'amour. Et il n'avait rien à voir avec le petit angelot joufflu armé d'un arc que nous connaissons. C'était juste un grain de sable. Mais ce grain de sable s'est accroché. Il s'est accroché à une chose et à une autre. Et petit à petit, il a tout désentrelacé. Pendant un temps qui n'avait pas encore de sens car le temps n'existait pas encore. Il a démêlé, il a séparé, il a désentremêlé et il a fait sortir de ce rien une première chose qu'on appelle l'éreb. Nous mortels, nous ne connaissons pas beaucoup l'éreb, c'est réservé aux dieux. L'éreb est une obscurité telle que rien ne peut se voir, que voir n'y sert à rien. Ensuite, en continuant son œuvre patiente, Eros a fait sortir la nuit. Éreb et la nuit, dès qu'ils se sont vus, ils se sont aimés et ils ont fait deux enfants, le jour et l'éther. L'éther, pour faire simple, est au jour ce que l'éreb est à la nuit. L'éther, c'est la lumière, sans aucun partage. C'est la lumière que connaissent les dieux là-haut dans leur palais de l'Olympe. Ça aussi, ce n'est pas pour les mortels. La nuit et le jour ont commencé à se tourner autour, et ainsi est né le temps. De son côté, Eros continuait son lent travail de désentrelacement, toujours et encore, encore et toujours, et maintenant jour et nuit se succédaient, et il continuait pour aboutir à son chef-d'œuvre, Gaïa, la terre. Et quand les Grecs disent la terre, ils ne pensent pas, comme nous, une petite planète perdue dans l'univers. Il pense l'intégralité de l'espace. La Terre, c'est le monde, c'est l'univers. Quand Gaïa est apparue, Eros était épuisé. Il avait fait tout ce qu'il avait à faire. Il avait désentremêlé presque l'intégralité de Chaos. Alors il a pris ce qu'il en restait. Il l'a enterré au fin fond de Gaïa, avec l'Erebe, et ainsi il a créé le Tartare. Puis il s'est lui-même levé à l'intérieur de Gaïa, et il lui a donné une puissance. Avec Eros, à l'intérieur d'elle-même, Gaïa a pu engendrer seule, sans aucun besoin d'un mâle. Et ainsi, seule, elle a mis au monde d'abord les montagnes, et elle s'en est parée comme si c'était des bijoux. Puis elle a mis au monde Pontos, le grand océan primitif, et elle s'en est drapée comme si c'était un vêtement. Puis elle a mis au monde Ouranos, le ciel, le grand Ouranos. À peine né, il était aussi grand que sa mère. On disait qu'il la couvrait comme le couvercle recouvre la marmite. Et à peine né, Ouranos a été pris de désir pour sa mère. Et à peine engendré, Gaïa a eu envie de son fils Ouranos. Alors ils sont partis dans une grande sarabande d'embrassades, de câlins. Ils ont roulé l'un sur l'autre. Ils se sont aimés encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et je m'arrête là parce que si je voulais continuer le temps qu'ils se sont réellement aimés, cela constituerait l'intégralité des épisodes de cette mythosaga.
La genèse du monde est le premier sujet auquel s'attachent les mythologies. Mais si chaque cosmogonie ou mythe de création du monde possède ses caractères propres, certains traits sont communs à toutes. À l'origine de toute chose, le chaos, le néant, ou bien une grande étendue d'eau, ou plus souvent encore un œuf primordial prélude à tous les possibles. L'univers peut exister dans la pensée d'un dieu créateur avant même la création. C'est ce que relatent les Dogons d'Afrique occidentale. La même idée se retrouve chez les hindous pour qui l'univers résulte d'une méditation de Brahma, le créateur. Un événement parfois anodin déclenche le processus d'évolution. Un monticule de terre apparaît hors de l'océan chez les Égyptiens ou chez les Cheyennes. Un échassier conserve dans son bec la vase que le grand esprit transforme en terre ferme au milieu de l'océan. Dans les mythes, la création commence toujours par une dualité des principes masculins et féminins, personnification du ciel et de la terre, jumeaux primordiaux, parents du monde. Le mariage sacré est une des formes que prennent l'union étroite du ciel et de la terre. en Égypte. Nout, le ciel, mère des dieux, a épousé Jeb, dieu de la terre. Courbée en forme de voûte, ses mains touchant le sol à l'Orient, ses pieds à l'Occident, elle enveloppe l'ensemble du cosmos. Elle est allongée sur la terre, mais sur ordre de Ré, dieu du soleil né de leur union, Shout, le dieu de l'air se glisse entre les deux époux et soulève le corps de la déesse qu'il sépare de la terre. Dans la théogonie grecque, telle que la raconte Hérodote, Gaïa, divinité des commencements, engendre elle-même le ciel Ouranos, et ensemble ils donnent naissance aux premiers dieux, les 12 titans, les 3 cyclopes, et parmi les titans et les titanides, Cronos. Mais le corps d'Ouranos, pesant de tout son poids sur la terre, finit par gêner les jeunes dieux, et Gaïa elle-même engage Cronos à mettre fin au débordement de son père en le castrant. C'est la fin du mariage sacré entre Ouranos et Gaïa et le véritable début de la création. Les dieux surgissent à la lumière du jour tandis que le ciel s'élève. Dans de nombreuses traditions, une mort sacrificielle est à l'origine du monde. Dans la tradition indienne, Purusha, l'homme cosmique primordial est offert en sacrifice et les différentes parties de son corps composent ensuite l'univers. Ce même thème se retrouve dans la mythologie nordique. Quand le géant Ymir est mis à mort par les 3 dieux créateurs, son corps devient la terre, son sang la mer, son crâne le ciel. De même en Chine, où le géant Pangu meurt après la création du ciel et de la terre et chaque partie de son corps contribue à la création de l'univers jusqu'à ses larmes qui se transforment en pluie. Le monde ne s'est pas forcément construit d'emblée tel qu'il est. Chez les Aztèques, 4 mondes successifs ont été détruits avant le monde connu. Chez les Indiens Hopi, enfin, un premier monde fut détruit par le feu, un second par le gel, un troisième par le déluge. Et le nôtre est promis à une destruction prochaine.
Tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant, tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. À l'origine, une caresse qui te traverse, un regard qui t'éclaire et te protège. À l'origine, quelqu'un qui te prend par la main et qui te murmure la vie. La vie t'a choisi. Oh, la vie t'a choisi. À l'origine, une peur qui s'est comme incrustée et qui tourne dans l'absurdité. Un coup mauvais sous ta peau tatouée. Une mémoire malsaine qui t'a contaminé. Et l'amour qui soudain se rétrécit. Et la flamme qui s'éteint, qui s'obscurcit. À l'origine, quelqu'un qui te lâche la main et qui te dit la vie. La vie t'a trahi. Oh, la vie. Tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant, tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. Alors tu retournes ton regard au-dedans et tu vois la beauté qui n'est jamais abîmée. Et c'est toi qui tends la main. la vie. La vie t'a repris. Oh, la vie t'a repris. Ce piège infâme qui se referme, qui te coince, te contrôle jusqu'à la nausée. Ce cauchemar glacé qui te surveille, tu l'envoies valser et tu te rappelles qu'à l'origine une caresse te traverse, qu'un regard t'éclaire et te protège, qu'à l'origine quelqu'un te prend par la main et te murmure la vie.
Un enfant dans l'atelier d'un sculpteur l'observait, travaillant. Coup de maillet après coup de maillet, une forme était en train d'émerger de la pierre. Patiemment, sous les yeux de l'enfant, dans la pierre, était en train de se créer un cheval en ruade, et l'enfant, après avoir longuement observé, s'approche du sculpteur et lui demande: « Dis, comment tu savais qu'il y avait un cheval caché à l'intérieur de la pierre ?» À l'école de la Bégutte de Mazinc, en Drôme provençal, sur l'impulsion de la communauté de communes d'Yeulphy-Bourdeau, pendant quelques semaines avec l'artiste céramiste Sarah Clotuche, nous avons partagé, imaginé, créé par les mots et dans la terre, nos cosmogonies pour des mondes à inventer. Yeulphy, c'est une terre de céramistes et Sarah Clotuche y fait émerger depuis l'argile des sculptures mi-animales, mi-humaines. Alors avec les enfants, nous avons visité quelques récits de création. Nous avons observé des représentations des mondes selon les mythes de création. Nous avons imaginé nos premiers mondes. Puis, devant les sculptures de Sarah, les enfants ont imaginé quelques récits peut-être cachés dans les sculptures. Voici quelques extraits de nos tâtonnements curieux.
Au début, il n'y avait rien, mais il y avait juste quelques dieux. Et ces dieux, ils ont commencé à se dire: ah, mais nous, on aimerait bien vivre ici, c'est joli, si on enlève qu'il n'y a rien. Donc, il nous faudrait un peu comme une plateforme sur laquelle on pourrait bâtir un palais, des arbres et de l'herbe partout, des fleurs et plein d'autres choses. Et pendant qu'il parlait, il y avait ce monde qui avait commencé à se créer. D'abord la plateforme, puis les arbres, puis l'herbe et puis les fleurs.
Ça se créait quand il nommait, en fait, c'est ça?
Oui.
Moi, dans ce monde, ça m'a fait étrange parce que j'ai vu que ça avait une forme un peu ronde, qu'il y avait des traits, genre comme si c'était une forme d'œuf ou de... un genre d'œuf.
Et il y avait une graine, et avec l'humidité de la grotte, il y a de l'eau qui est tombée sur la graine et qui a fait pousser un arbre.
Il y a un grand serpent qui est sorti, tout vert, mais il ressemble un peu à un tuyau d'arrosage, mais on va dire que c'est un serpent.
Et il mange sa queue.
Un serpent qui se mange la queue, qui sert à quoi?
Une barrière protectrice.
Et qui ressemble à un tuyau d'arrosage.
Il va commencer à s'énerver
et il va transformer, vu que c'est le dieu un peu du feu, et ben il va transformer des volcans, il va faire du feu et tout, il va balancer des sortes d'éclairs, un peu comme Zeus, mais c'est pas Zeus, vu que c'est le dieu du feu. Ouais. Et après, et ben, il a un trône sur le soleil, c'est un peu comme sa maison. Et à un moment, le phénix, et ben, il trouve un œuf où il y a les quatre éléments. Mais on s'est dit qu'il y avait peut-être l'eau et la terre qui pouvaient venir pour tout arranger, quoi. Et le phénix, lui, il veut plutôt protéger.
Okay.
Et après, ben, il n'est pas content vu qu'il n'a pas gagné de territoire. En fait, okay. C'est un peu le diable, quoi. C'est pas un bon dieu.
Ouais, c'est pas
même
un
si
bon
c'est
dieu.
Lui qui a un peu fait créer le monde.
Mais en même temps, il est indispensable parce que c'est un peu lui qui a créé le monde, d'accord. C'est super intéressant.
Et un homme qui ne... pas fait attention, s'est fait brûler par le brasier, il est devenu le démange.
Le et démange, c'était quoi?
Un peu un démon et un ange en même temps.
Ouais.
Et bah, pour faire des créations, il se grattait.
Et ouais, c'était le démange, quoi.
Et du coup, bah, il a créé, avec le feu, il a créé des matières. Mmh. Il a créé le fer et l'argile. Et après, il a créé des personnes pour pouvoir... des êtres pour pouvoir travailler les matières.
Ils avaient peur qu'ils brûlent leur village et il avait peur qu'on s'attaque à lui. Du coup, il a créé les feux follets pour le prévenir en cas de danger. Et il avait aussi créé un phénix, mais qui a donné le vol aux feux follets pour qu'ils se mettent dans les airs, pour qu'ils se voient un peu moins.
Il se sentait seul. Du coup, il a voulu créer des animaux. Et bah, du coup, il a pris de la terre, des feuilles, il a mélangé et après, il a soufflé dessus et il l'a jeté et ça a créé un lion. Mmh. Et sauf qu'il bah, il se dit, bah, moi, j'aime bien ces animaux-là. Du coup, il en a créé plus.
Et des fois, ils essayaient de voler. Mais comme ils avaient des toutes petites ailes, ben ça, quand ils battaient des ailes, ça faisait de l'air. Et...
Ah, ils ont créé l'air.
C'est comme ça qu'on a inventé le ventilateur.
Très bien. Ben, merci beaucoup.
Laurent.
Au tout début, le rien. Ni le temps. Ni l'espace. Dans ce rien, un frisson qui s'ébauche, dessine la peau du temps à la surface du vide. Autonome, obstiné, frisson qui s'amplifie, enfle à devenir souffle puis grondement. Des profondeurs du rien. Impassible, ça monte, ça s'échauffe, ça se tend, et ça... Bang ! Ça pétarade, ça explosaille, et de là, tout sonner, je commence à tourner sur moi-même, je me cherche une bouche et des mots pour me dire, je... Bouillonnement et questions sans réponse, seul et plein à la fois, je suis le mouvement et je tourne sur moi à l'infini. Peau à peau. Contre moi, je sens que ça se charge, je sens ça s'agglutine et je sens que ça pèse. C'est du lourd. C'est parti. Peau de temps, feu et vent et tempête et planète, je sais qu'il me faudra traverser chaque écorce, trouver le cœur pour y être. Et je cherche mes lettres, mon mot de noblesse. Et comme je roule ma bosse, une pluie de i me tombe tout droit du ciel, ciel. Je m'en chipe un au vol et je le choisis grec, mon i. Pour pouvoir m'y emmitoufler. Et dans l'air, je le plante, mon i grec. Mon i graine. Je suis i,
dans l'air. I. R. Hier. J'ai été. Pétri de mon passé, je fus terre et puis eau, amibe et batracien. Reptile et amphibien, je fus hier. Quelque chose se créait, me parcourait l'épiderme, pulsait en moi et contre moi, émergeant de ce rien, sans cesse se transformant dans une pulsion de vie. Je fus hier, je m'en souviens. J'ai pas oublié. Comment oublier ce bouillonnement furieux qui inlassablement cherchait sa forme en moi, son accomplissement, ces temps du tout possible, bon sang. J'ai regretté ces temps. Nostalgie et chagrin s'écoulaient de ma source, je fus hier. Mais demain me poussait déjà. Demain pour me guider à tâtons, pour saisir, pour me rendre à bras-le-corps, m'incarner. Demain, pour caresser le doux parfum de vivre, le lisse appel des cimes, le rugueux des regrets, le tangible, les courbes du possible. Demain, pour me construire, me faire une cabane, apprenant patiemment et ajustant mes gestes. Demain, pour y entrer dedans et y prendre le thé. Le thé qui voulait s'incruster dans mon verbe, un thé dans hier, un thé pour y être. Y être. Du moins, j'ai essayé. Y être. Ici et maintenant, planté, enraciné, sensible et incarné, relié à ma terre, je ne savais que sentir. Un regard me manquait pour me donner confiance et je l'ai cherché, ce regard. Je l'ai appelé de mes vœux, levant la tête aux cieux et le bleu m'inondait. Y être ou ne pas y être, telle était ma question. Cherchant mon amulette et sans casser les cieux, nom de Dieu, une paire d'yeux m'est tombée bille en tête et je suis devenue yeux. Fallait ça pour le voir et je le vis, ce monde, se créer, et moi dedans. Les montagnes, les forêts, les déserts et les lacs, les vallées parcourues de milliards de vies à s'y ébrouer, à se partager le territoire, je l'ai vu beau, ce monde, s'offrir. Se transformer. Du beau monde, oui. Et moi dedans. Les lumières et les ombres, les peurs et les douleurs, la laideur, et moi dedans. Je fus eux, moi et eux tout ensemble, c'était beau. Unissons-nous. Je fus eux, moi et eux comme un seul cœur uni dans un battement, pulsant notre musique traversée de mélodie et de poésie pour se vivre en berlificoté, en mêlé confondu. J'ai étouffé dans eux et je voulais m'en extraire, goûter la légèreté, trouver mes voies lactées, mes chemins blancs, mes routes de liberté. Et dans l'air cristallin, je me suis trouvé deux ailes. Je me les suis accordées et je suis devenue Yel. Puis je me suis envolée. Yel. Entre terre et ciel, Yel, déesse aux mille mamelles, d'où coulaient un lait riche, abondant et sucré, Yel, gironde et nourricière à toute fin vouée, j'ai abreuvé le monde et nourri mon prochain, câliné de mes courbes abreuvées, tant et plus, je me suis laissé faire, j'ai tout donné de moi, jusqu'à la dernière goutte. Je fus Yel, et je me suis vidée. Je me suis laissé traire, je me suis laissé boire, meurtri et abusé, tari, abandonné du ciel, tout asséché, vieille peau. Je suis tombée dans la fange et le fiel, et de ma bouche tordue ont jailli mille vipères. Je suis devenue hyène, écume aux lèvres. Et babine retroussée, j'ai galopé la fange, ma carcasse est flanquée, je cherchais ma revanche. La furie me poussait et je les ai tous maudits. Elle et eux, les abysses et les cieux, j'ai éructé ma rage, colère et guerre et feu durant des millénaires, dansant sur des charniers. Ma soif de vengeance ne souffrait aucune fin, je fus hyène. La mort me tutoyait, elle était mon amie, je lui faisais escorte et pour piller la vie toujours et tant et plus. J'accumulais, je possédais tout, je fus hyène. Je fus one et niqué, encore toujours plus haut, j'escaladais en chienne ces montagnes d'argent, avoir, gagné, pillé, action sans vérité, je suis montée au sommet, sonnant puis trébuchant. Je suis tombée de haut. Arrivé tout en bas, tout cassé, en morceaux, éparpillé, j'ai plus bougé. Dans ma bouche, un goût de terre, de sang et de fer, je sentais l'air. Une brise parcourir mes débris, réveiller patiemment ce qui me ferait une. Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu de l'aide, il m'a fallu des mains. D'autres mains que les miennes pour toutes me rassembler et rêver à nouveau demain. Morceau après morceau, peau après peau. Ça m'a valu du fil à retordre pour suturer mes plaies. J'ai goûté ce temps long de la réparation. Accueilli chaque présence, chaque sourire, chaque instant accordé à me rafistoler. Et dans mon désert mort qui patiemment se repeuplait, j'ai vu que je n'étais pas seule. J'ai vu au bout de la haine se dessiner un pont. Un simple pont vers M. Je me suis redressée, j'ai réappris la marche pas à pas. De N à M, il n'y avait qu'un pont. Et je l'ai traversé. Pour cette émission, j'ai emprunté un extrait de la mytho-saga du conteur Julien Taubert. Je tiens à remercier au passage la communauté de communes de Dieulfy-Bourdeau pour leur accompagnement dans le projet Langue de Terre, ainsi que les enseignants fabuleux des classes de CM1 et CM2 qui nous ont fait confiance à la Bégutte de Mazinque, et enfin les élèves avec lesquels nous avons fouillé nos imaginaires joyeusement. Vous trouverez toutes les références aux musiques et extraits sur la page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie Pauline Lemaire Desmarais pour la réalisation et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission sur les ondes de Radiola et sur votre radio associative préférée.